cœur des livres.
Au cœur des livres, et aujourd'hui, eh bien, c'est pas Daniel de Tom Librairie qui est dans les studios, c'est Richard Marlet. Bonjour Richard.
Bonjour.
Alors Richard Marlet hein, est commissaire divisionnaire honoraire, consultant audiovisuel police-justice. Il a dirigé donc les services de l'identité judiciaire et de la documentation criminelle du 36 Quai des Orfèvres. Votre livre, hein, La science à la poursuite du crime, un ouvrage qui parle de l'histoire de la police scientifique, vient de sortir. Et vous êtes là pour nous en parler.
Absolument.
Alors, Richard, peut-être avant de parler de votre livre, on va revenir sur votre parcours. Pourquoi être entré dans la police ?
Ah, écoutez, c'est très curieux, en fait. C'est un concours de circonstances. Comme vous le savez, j'ai une maîtrise d'archéologie étrusque. Et avec ce diplôme-là, je me dis, mais qu'est-ce que tu peux bien faire ? Mais il se trouve qu'en fait, mon père était gardien de la paix et mon frère aîné était, à l'époque, on appelait ça inspecteur divisionnaire.
D'accord.
À la brigade de recherche et d'intervention du Quai des Orfèvres, plus connu sous le nom d'Antigang. Et en fait, il m'a fait rencontrer un collègue à lui qui était à l'Office central de répression du vol des objets d'art. Je me dis, tiens, le vol des objets d'art, c'est sympa.
Ouais.
J'ai passé le concours d'inspecteur avec la mention histoire-géographie. Arrivé au Quai des Orfèvres, mon frère m'a dit, inspecteur, c'est bien, mais commissaire, c'est mieux.
Ouais.
Donc j'ai passé le concours de commissaire de police, je l'ai eu. Et puis, ben voilà, a commencé une carrière de près de 40 ans.
Ouais, et c'est pas quelque chose que vous rêviez de faire petit policier ?
Non, pas spécialement, mais après je pense qu'il y a l'atavisme familial. Et puis il y a, j'ai découvert un personnage qui ne m'a jamais quitté, qui est Sherlock Holmes.
Ouais.
En fait, je le découvre à l'adolescence et quelque part je retrouve une espèce de motivation dans l'investigation. Et puis, quand on fait de la police technique et scientifique, en fait, c'est comme si on faisait de l'archéologie. Vous remontez le temps et vous, à partir des indices que vous trouvez,
ouais,
vous essayez de remonter jusqu'au moment où s'est passé le crime.
Et alors, vous avez été l'une des figures du 36 Quai des Orfèvres. La police scientifique, là, c'est quelque chose que vous vouliez faire, une fois que vous étiez dans la police.
Non, pas trop. Là aussi, c'est un concours de circonstances, en fait. À un moment, j'étais chef du 13e arrondissement et le directeur de la police judiciaire m'a dit « Mais est-ce que l'identité judiciaire, ça te tenterait ?» Donc, j'avais une petite notion. Et j'ai accepté. Et là, ça a été le début d'une aventure, quoi. Parce que c'est un monde qui est sans cesse en évolution, qui a un passé.
Mmh.
Donc, Alphonse Bertillon, dont je dois être le 13e successeur. Donc, c'est à la fois un monde qui a un passé, qui a un présent, et puis surtout qui a un avenir.
Ouais. Alors, justement, c'est quoi l'identité judiciaire ?
Alors, l'identité judiciaire, c'est l'invention d'Alphonse Bertillon. Donc, Alphonse Bertillon, c'est la fin du 19e siècle. Et la fin du 19e siècle, c'est la lutte contre la récidive.
D'accord.
Mais le problème, la littérature en rend bien compte, c'est que les malfaiteurs changent de nom à chaque fois qu'ils se font arrêter. Quand on prend, le comte de Monte Cristo, il s'appelle Edmond Dantès. Quand on prend la comédie humaine de Balzac, en fait, les personnages changent de nom.
Ouais.
Voilà. Et donc, en fait, comment appliquer des peines plus sévères liées à la récidive quand les malfaiteurs changent de nom ? Et en fait, Alphonse Bertillon a une idée lumineuse, c'est de substituer à l'identité autre chose. Et pour Bertillon, cette autre chose sont les mensurations humaines. Donc, il va déterminer 12 mesures, la largeur du crâne, la longueur du crâne, la hauteur, l'envergure, la longueur de la coudée, etc., etc., etc. Et par ces mensurations, il est capable de retrouver un individu lorsqu'il change de nom.
D'accord. Et alors, la société évolue aujourd'hui.
Bien sûr.
Et du coup, la police aussi.
Évidemment.
Qu'est-ce qui a changé depuis Alphonse Bertillon?
Beaucoup de choses. Donc, il y a eu une première révolution, ça a été la découverte des empreintes digitales, qui a renvoyé Alphonse Bertillon à ses études. Les empreintes digitales ont remplacé l'anthropométrie judiciaire. Après, la deuxième grande révolution, c'est évidemment l'empreinte génétique. Et l'empreinte génétique va modifier beaucoup de choses, notamment le comportement sur la scène de crime.
D'accord.
Lorsqu'on reprend par exemple l'affaire Grégory, qui est une vraie caricature de gestion de scène de crime, on voit donc à l'époque ce sont les gendarmes, ils ne sont pas protégés, il y a beaucoup de pollution des scellés,
ouais,
etc., etc., etc. Donc évidemment, avec l'ADN, vous travaillez sur quelques nanogrammes de matière, donc ça implique la protection des intervenants, donc on voit maintenant ces hommes tout en blanc, extrêmement protégés pour éviter les pollutions. Et puis, c'est la capacité de détecter quelques nanogrammes de matière. Donc, essayer d'utiliser la lumière sur toutes ces fréquences, de l'ultraviolet à l'infrarouge, enfin, etc., etc., etc.
Alors, on va revenir sur votre livre. Alors, vous avez déjà écrit pas mal de livres, je crois.
Bah, je crois que ça va être le quatrième, celui-là.
Le quatrième.
Donc, oui, le premier tournait aussi autour de la police scientifique, mais il était très pédagogique. J'ai fait un autre livre sur les chiens dans la police.
D'accord.
Donc là, c'est pareil, en fait. C'est ce que je vous disais, mon père était gardien de la paix, mon parrain était maître chien.
Ouais.
Et en fait, pour moi, c'était une façon de leur faire coucou là où ils sont. Et puis donc, le dernier, donc la science à la poursuite du crime, ça a été l'occasion, avec le co-auteur Pierre Piazza, nous avons récupéré des milliers de visuels de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui sont des visuels d'une qualité extraordinaire en haute définition sur les tirages de plaques de verre.
D'accord.
Donc on a peut-être 900 visuels, donc on a à peu près 2/3 d'images historiques et 1/3 d'images modernes pour essayer de montrer l'évolution depuis la fin du 19e jusqu'à maintenant.
Donc il est très illustré cet ouvrage.
Ah oui, il est particulièrement illustré et en fait j'ai tendance à penser que dans ce livre-là on voit des choses qu'on n'a jamais vues.
Ouais.
Par exemple, la reconstitution des engins explosifs utilisés par les anarchistes de la fin du 19e siècle.
D'accord.
Donc ce sont des pots de fleurs, des valises, des choses comme ça. Donc ça sont les choses où l'intégralité des photographies liées à la bande à Bono.
Ouais.
Donc on a tous les membres de la bande à Bono, plus toutes les affaires de la bande à Bono. Ça, ce sont des choses qu'on n'a jamais vues.
Qu'on n'a jamais vues et qu'on peut retrouver donc, dans votre livre. Alors, donc il y en a tout le temps des affaires, et puis des affaires qu'on n'arrive pas à trouver, comme l'affaire du pont de Ligonnès.
Oui, alors ça, c'est l'affaire du pont de Ligonnès. J'allais prendre le train, en fait, pour regagner le Trégor, lorsque mon téléphone a commencé à sonner, de la part de vos collègues,
ouais.
Sur est-ce qu'on a réellement identifié Xavier Dupont de Ligonnès.
C'est
en fait,
ça.
C'était très paradoxal, c'est-à-dire que, pour moi, une identification à partir des empreintes digitales, il n'y a pas de place au doute.
Ouais.
Et puis, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, le doute s'installait. C'est-à-dire qu'il fallait tenter d'expliquer comment, en fait, à partir de quelque chose qui est extrêmement identifiant,
ouais.
Les empreintes digitales, il pouvait y avoir place au doute, donc il fallait donner quelques leçons sur les empreintes digitales.
Alors comment, justement, la police, c'est la police écossaise qui a pu se tromper sur l'identification?
C'est là où la question se pose, en fait. C'est que, à partir de quoi nos collègues écossais, qui sont largement aussi bons en empreintes digitales que les policiers français, c'est évident, à partir de quoi ils ont établi leur comparaison? Donc ils avaient les empreintes digitales de X pouvant être Xavier Dupont de Ligonnès, ça c'est évident, il était là. Donc ces empreintes allaient être d'une qualité exceptionnelle, bon, mais il fallait les comparer à quelque chose. Ce quelque chose, ça ne pouvait être que la fiche de diffusion d'Interpol. Alors on va se poser des questions, qu'est-ce qu'il y avait sur cette fiche de diffusion? Est-ce qu'il y avait les 10 empreintes digitales de Xavier Dupont de Ligonnès, si par hasard il avait eu affaire à la police, ce qui n'est pas le cas?
Ouais.
Ou bien est-ce que c'était une empreinte digitale ou deux empreintes digitales obtenues lorsque Xavier Dupont de Ligonnès a demandé une carte d'identité ou un passeport?
D'accord.
S'il l'a demandé il y a quelques années, en fait, quand vous alliez en préfecture, dans un commissariat ou dans une gendarmerie, on vous mettait un petit peu d'encre sur le bout de l'index et puis on appliquait votre doigt sur une feuille de papier. Ce qui rend quelque chose de particulièrement illisible. C'est plus un pâté d'encre qu'une belle empreinte digitale. Donc voilà. Donc une fois qu'on a posé toutes ces questions-là, on peut se dire, peut-être qu'ils ont comparé sur un document qui n'était pas de très bonne qualité. Et puis dernière chose, mais seuls les spécialistes le savent, c'est que en France, on a un standard numérique qui dit que dès lors qu'on n'a pas 12 points similaires entre une trace et une empreinte, on ne peut pas se prononcer sur l'identification. Et les Écossais parlaient de 5 points. Donc on disait, oui, mais qu'est-ce que c'est qu'une identification à 5 points? Sauf qu'en fait, depuis 2006, je crois, les Écossais ont abandonné cette idée de standard numérique pour passer dans une approche plus qualitative.
D'accord.
Qui fait qu'en fait, on est dans une échelle qui va de l'exclusion à l'identification en passant par des stades de probabilité.
Ah oui, d'accord, de probabilité, ah oui, effectivement.
Donc, et on imagine, en fait, lorsqu'il y a un échange d'informations entre les policiers écossais et les policiers français qui connaissent peut-être pas cette histoire de standard numérique abandonné, une traduction entre possible, probable, très probable, peu possible, il peut y avoir une confusion, puis on l'a vu, ça a été l'emballement médiatique.
C'était très rapide, surtout.
Absolument, oui, oui, c'est parti comme une traînée de poudre, en fait. Et puis, on a commencé à dire, voilà, on va confirmer ou infirmer l'identification par l'empreinte génétique. Bon, voilà, si on avait eu des empreintes digitales parfaitement correctes, on ne passait pas par les empreintes génétiques. C'est largement aussi identifiant les empreintes digitales que l'empreinte génétique.
Ah, c'est ça. Est-ce que c'est plus fiable, du coup, que l'ADN ?
Écoutez, ben, la chose, c'est qu'en fait, si vous prenez deux jumeaux homozygotes, nés dans le même œuf, en fait, ils ont la même empreinte génétique.
Ouais.
Par contre, ils n'ont pas les mêmes empreintes digitales.
Ah oui.
Okay. Voilà, donc, après, il y a d'autres... Il y a d'autres éléments qui rendent l'empreinte digitale extrêmement intéressante. C'est notamment le fichier d'identification sur lequel on s'appuie, qui doit compter maintenant 6 millions d'individus sur 10 doigts, plus les deux paumes. Donc ça a une puissance d'identification assez considérable.
Et en plus, la personne, apparemment, physiquement, ne ressemblait pas du tout à
lui.
Ah
non, pas du tout.
Ouais.
Non, pas du tout. Mais après, si vous voulez, c'est ça, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai parlé de Sherlock Holmes. En fait, il y a deux, trois phrases comme ça que j'aime bien chez Sherlock, dont une qui dit « Jamais je ne devine, c'est une habitude détestable qui détruit la faculté de raisonner. » Et puis une autre où il dit « Ah, je soupçonne », et Watson lui dit « Mais vous soupçonnez qui ?» Et Holmes lui répond « Moi-même, d'arriver trop vite à la conclusion. »
Ah oui. Et vous, justement, est-ce que vous y avez cru tout de suite quand les médias ont dit Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté en Écosse ?
Non, parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais une théorie, mais qui est extrêmement personnelle. Hein. C'est-à-dire que je ne pense pas que Xavier Dupont de Ligonnès soit encore vivant.
D'accord.
C'est-à-dire organiser une cavale qui dure sur plusieurs années.
Mmh.
À un moment, on a même parlé de chirurgie esthétique.
Hein. Ouais.
Donc une cavale qui dure sur plusieurs années... Ça demande beaucoup de moyens financiers, ça demande une organisation, etc. etc. Donc ça, c'était une théorie.
Ouais.
Après, cette affaire est tellement exceptionnelle que je pense que les gens ont voulu croire que c'était bien lui.
Ouais, que c'était bien lui. Alors, il y a d'autres affaires qui sont plus compliquées que d'autres.
Bien sûr.
Il y en a encore qui sont Fourniret.
Fourniret, vous avez celle... qui est en cours de procès, c'est l'affaire Élodie Kulik.
Ouais.
Et une utilisation de l'empreinte génétique qui était nouvelle, c'est-à-dire identifier un des auteurs, je crois qu'il s'appelait Viard et qui est décédé, à partir de l'ADN de son père.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y avait eu un prélèvement génétique sur la scène de crime, mais on n'arrivait pas à identifier. Et là, un généticien, un biologiste, un gendarme spécialiste en biologie a eu l'idée, en fait, de comparer avec des gens qui pouvaient être dans le fichier et qui avaient des segments communs avec la trace trouvée sur la scène de crime qui aboutit à l'identification du père, puis du fils, etc., etc., etc.
Et vous, quand vous étiez donc au 36 Quai des Orfèvres, est-ce qu'il y a eu des moments où c'était plus compliqué que d'autres et d'autres que vous n'avez jamais réussi non plus à...
Bien sûr, si vous voulez, le premier choc que j'ai eu, donc je sortais de l'école des commissaires de police, ça a été ma première scène de crime.
Hein. Ouais.
C'était l'assassinat d'une vieille dame qui s'appelait Suzanne Foucault, qui habitait 10 rue, ça y est, je ne me souviens plus du nom, sur le 18e arrondissement. Et en fait, c'était la première victime d'un tueur en série qui s'appelait Thierry Paulin.
D'accord.
Et qui laissait beaucoup, beaucoup de traces digitales sur les scènes d'infraction, sur les scènes de crime. Mais en fait, à l'époque, il n'y avait pas de fichier. Donc, on n'a pu identifier Thierry Paulin. Et puis, quelques années après, je vais en croiser un autre tueur en série qui est Guy Georges.
Ouais.
Qui lui, en fait, ne laissait pas de traces digitales, mais laissait des traces biologiques, mais... Malheureusement, la France n'avait pas de fichier informatique d'identification des empreintes génétiques. Voilà, donc malheureusement, c'est souvent à l'occasion d'affaires terribles qu'on a un petit coup de pouce, un petit coup d'accélérateur pour donner aux policiers les outils dont ils ont besoin.
Ouais. Et alors, cette affaire fournirait un ressort encore aujourd'hui ?
Oui. Après, le truc, c'est essayer de ne jamais construire d'hypothèse a priori qui fait qu'à un moment... On exclut Fourniret, notamment de l'affaire Estelle Mouzin, sur un témoignage, sur un appel téléphonique. Et puis après, on se rend compte que ce témoignage, cet appel téléphonique n'est peut-être pas aussi solide et on relance l'enquête. Donc, on parle de cold case où les policiers parlent plus souvent de clou dans le cœur, en fait. Un clou dans le cœur, c'est une affaire qu'on n'arrive pas à résoudre. Et on sait que, heureusement, le temps travaille beaucoup pour les policiers.
Ouais, c'est ça. Alors vous, maintenant, vous êtes à la retraite.
Oui.
Et pourquoi avoir choisi la Bretagne, en particulier les Côtes d'Armor ?
Alors ça, je le dois à une personne qui est chère à mon cœur, qui est ma compagne. Mm-hmm. Donc Christine, qui a, si on reprend l'histoire, qui a d'abord été mon adjointe avant d'être ma compagne.
D'accord.
Et donc, il y a quelques années, elle m'a invité à passer une semaine de vacances, donc dans le petit hameau où elle a sa maison, les Sept Saints, sur la commune du Vieux Marché. Et en fait, je suis tombé amoureux du lieu et de la dame. Donc évidemment, le Vieux Marché, c'est quelques kilomètres de la côte de Granitrosse, c'est splendide, la mer, c'est des couleurs qui changent tout le temps. Voilà, donc je peux me nourrir en termes d'esthétique, je suis servi.
Alors on vous voit souvent dans les médias.
Oui.
Dès qu'il y a une affaire, on vous appelle aujourd'hui.
Hein. Oui, ben vous l'avez dit, en fait, on me surnomme le Bertillon des temps modernes ou bien le Sherlock Holmes contemporain. Donc j'ai exercé pendant plus de 10 ans la police technique et scientifique. Ça fait plus de 20 ans que je donne des cours de police scientifique, soit à l'Institut de criminologie du Panthéon Assas, soit au CNAM. Donc j'ai une certaine culture. Et donc, on vient chercher l'expert en police technique et scientifique pour essayer d'expliquer aux gens, et ça, j'adore ça, essayer d'expliquer aux gens comment ça fonctionne en réalité.
Ouais. Et donc, vous allez faire des allers-retours maintenant entre Paris et les Côtes d'Armor.
Oui, enfin, je pense que je vais largement privilégier les Côtes d'Armor. Et puis, lorsqu'on aura besoin ou lorsque j'aurai envie de me replonger dans la pollution lumineuse, sonore, etc., etc., de la région parisienne, j'irai reprendre un coup de pollution.
Et puis s'il y a une affaire là qui ressort de longtemps,
oui,
là
pas.
Certainement qu'on vous appellera
aussi. Oh, c'est très probable, oui.
Et la suite du coup pour vous, donc, est-ce que vous allez continuer à écrire ?
Oui, alors j'ai deux projets en fait. Comme je vous l'ai dit, hein, mon frère était à la brigade anti-gang et moi je m'occupais de police scientifique. Ça fait un peu le calibre et la loupe. Mmh. Et donc j'aimerais bien raconter près de 60 ans de police judiciaire au Quai des Orfèvres, montrer comment les choses ont évolué, comment la police a pu évoluer, comment moi j'ai connu une police qui ne s'appelait pas police de proximité, mais qui était une vraie police de proximité, où les policiers étaient proches des gens,
ouais.
Me poser la question de savoir si c'est encore le cas ou si ça l'est moins. Donc là, ça sera une espèce de biographie.
Ouais.
Bon. Et puis j'ai un projet, je vais passer carrément au roman. Donc j'ai un projet de roman historique qui s'ouvre le jour du transfert des cendres de Zola au Panthéon avec un personnage qui est une espèce d'anti-Holmes. C'est-à-dire qu'il a les qualités de Sherlock Holmes, mais il voue ses qualités plutôt au mal.
D'accord. Eh ben en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur Millennium.
C'est moi qui vous remercie.
Et il y a une chose, hein, si vous êtes samedi en conférence.
Absolument.
À la résidence Domitys à Perros-Guirec.
Oui.
Et c'est à 17h.
C'est ça.
Et donc, c'est une conférence sur votre livre, sur quoi ?
Je pense que je vais faire une petite projection sur l'histoire de la police scientifique, c'est-à-dire partir d'une affaire célèbre de 1902. C'est la première identification de traces digitales par Alphonse Bertillon.
Ouais.
Et montrer, en fait, comment, depuis 1902, la police technique et scientifique a évolué.
Et vous allez en faire de plus en plus des conférences là dans le Trégor ?
Bah écoutez, moi je ne demande que ça. J'adore le contact avec les gens, faire passer un certain nombre de connaissances. Ouais, j'adore ça. Donc je suis à la disposition. Qui veut, je viendrai.
D'accord. Et ben en tout cas, merci beaucoup Richard Marlet d'avoir été sur Millennium.
Moi qui vous remercie encore.